Avant d'entamer la lecture de notre texte, d'abord, quels sont ceux qui sont café parmi nous? Ceux qui aiment le café plutôt que le thé. Voilà. Et les autres, c'est du thé ou autre chose? Tout ça parce que je vais vous parler de la tasse de café de Nancy Macmillan. La tasse de café de Nancy Macmillan. C'était en 1981, dans une petite ville, Addy, de l'État de Washington, dont la capitale est Seattle, Olympia, la plus grande ville étant Seattle. Et c'était... Il y avait là un couple de chrétiens, David et Nancy Macmillan. Lui, c'était un policier. Il conduisait une voiture rapide sur les routes de l'État pour attraper les contrevenants aux règles de la conduite. Et puis cette femme, Nancy, élevait leurs enfants dans une très belle région, région vallonnée, verdoyante de l'est de l'État de Washington. Et elle avait à cœur ses nouveaux voisins, Mike et Molly, qui n'étaient pas chrétiens. Et elle priait pour qu'une occasion se présente pour pouvoir leur parler du royaume de Dieu, pour leur parler de Jésus. Et puis, elle a saisi l'occasion, une fois qu'elle parlait avec Molly, cette jeune femme, elle l'a invitée à venir prendre une tasse de café chez elle. Là-bas, les maisons ont beaucoup de terrain, et donc c'est pas comme si on va dans l'appartement voisin, il faut sortir, il faut aller dans l'autre propriété et trouver la maison. Mais elle avait fait cet effort de rencontrer Molly, et elle l'avait invitée à venir prendre une tasse de café chez elle. Une simple tasse de café, ça coûte pas cher, ça mange pas de pain, sauf si on fait des toasts avec. Mais elle a obéi à Dieu qui lui avait mis à cœur de faire ce geste. Et personne n'aurait pu soupçonner l'impact de ce petit geste d'obéissance allait avoir dans le futur. Seul Dieu savait et il se réjouissait de ce que Nancy obéissait à son Esprit Saint. Et donc, gentiment, en douceur, Nancy a parlé de sa foi à Molly, qui a accepté d'aller avec elle à l'église que fréquentait Nancy Macmillan. Et bientôt, Molly, touchée par l'annonce de l'Évangile, s'est convertie et a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mike, le mari de Molly, pensait que c'était des histoires de bonnes femmes. Mais quelques mois plus tard, alors qu'il était à la pêche au saumon en Alaska, son bateau a failli couler. Il a promis à Dieu que s'il était épargné, que si Dieu l'épargnait, il vivrait pour lui. Et Mike et Molly devinrent très vite des chrétiens engagés et leur vie a été complètement transformée. Mike, c'était, quand il ne faisait pas la pêche, c'était un bûcheron qui était sans arrêt en train de boire de la bière. Il avait toujours un six-pack à la main. Il avait toujours une canette de bière dans la main et racontait des histoires qu'il trouvait drôles mais qui étaient en fait un peu scandaleuses. Pas très clean. Mais du jour au lendemain, leur vie a été transformée et ils ont commencé à parler de Jésus autour d'eux, autour de leur famille, dans leur famille. Et en fait, si je connais cette histoire, c'est que Molly, c'est la sœur de ma femme Nancy et que Mike, c'est mon beau-frère. Certains d'entre vous le connaissent. Il est venu il y a 2 ou 3 ans comme orateur de notre retraite aux enfants à la montagne. Il y en a qui se souviennent de Mike ? Voilà. Il a quitté son, son travail de bûcheron. Il est parti faire des études bibliques au Canada. Et puis il est parti comme missionnaire au Népal, où ils sont restés pendant 4 ans, en attendant de retourner dans l'église où il est maintenant pasteur. Et l'impact de cette tasse de café ne s'est pas arrêté là. Donc cette tasse de café a eu des répercussions au Népal, en Asie. Mais l'effet boule de neige a continué. Et je disais que ma femme vient d'une famille de 12 enfants. Donc, Mike et Molly ont eu du travail, ils ont partagé leur foi. Et Patty, une autre sœur, est devenue chrétienne. Elle a fini par gagner son mari, qui était un croyant à la foi. Il est devenu, lui aussi, pasteur missionnaire. Il a implanté des églises au Mexique. L'Amérique du Sud a été touchée. Avec sa femme et ses 5 filles et son garçon. Un autre frère de Nancy et Molly, Steve, a été touché par Christ et il est parti comme missionnaire en Éthiopie et à Djibouti. L'Afrique a été touchée. Il y avait une autre sœur qui, elle, menait la grande vie. On dirait en français une vieille expression, elle menait une vie de patachon, elle faisait la fête tout le temps. Station de ski l'hiver, plage l'été, elle s'est convertie et elle s'est retrouvée monitrice d'un camp chrétien de sport, d'activité sportive aux USA. L'Amérique du Nord a été touchée aussi. Lisa, une jeune sœur de Nancy, a fait des séjours missionnaires au Mexique et avec son mari, ils sont maintenant responsables d'un ranch pour des jeunes enfants en difficulté aux États-Unis. Et puis, grâce à cette réaction en chaîne, Nancy et moi, nous sommes retrouvés en Europe, ici à Nice. Et pour l'instant, je crois que l'Australie n'a pas encore été affectée par cette simple tasse de café. Mais il reste plusieurs frères et plusieurs sœurs, alors qui sait ? Je dois dire que Nancy McMillan serait la première embarrassée si elle savait que nous avons mentionné son nom et son histoire. Parce qu'elle sait, et nous le savons aussi, que ce n'est pas elle qui doit être glorifiée, mais le Seigneur qui veut sauver le monde. Le Seigneur qui utilise tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il est dit dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 16, verset 9, « L'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ce ne sont pas vos capacités qui importent au Seigneur, mais bien davantage votre disponibilité. Nancy McMillan n'a jamais été dans une école biblique, n'a pas étudié dans un séminaire, elle ne connaît ni le grec ni l'hébreu, elle n'a même jamais prêché un sermon, mais elle a été disponible au moment voulu. Elle a donné de son attention, de son temps, de ses prières, pour sympathiser avec une voisine, lui offrir une tasse de café et laisser Dieu faire le reste. Dieu utilise tout genre de témoignages pour construire son Église. Comme nous allons le voir dans notre passage aujourd'hui, et il veut utiliser chacun de nous. On va se tourner donc dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Si vous voulez bien vous tourner avec moi dans ce passage, on va le lire et je vais vous demander de vous lever pour changer un peu de position et pas commencer en vous endormant. Tony nous a parlé de l'épisode avec Jean-Baptiste et comment il annonçait que c'était l'agneau de Dieu. Et on lit au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ?» Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où habites-tu ?»« Venez », leur dit-il, « et voyez ». Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons présenté l'évangile de Jean comme étant le livre qui aide à croire. C'est le livre qui vous aide à croire. Et le livre lui-même dit dans Jean 20, 31, le 20e chapitre, verset 31, « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Trois grandes idées dans l'évangile de Jean sont le témoignage. Témoigner, c'est dire ce qu'on a vu. Quand vous êtes témoin d'un accident, la police peut vous demander votre témoignage. Vous allez dire votre version des faits tels que vous les avez perçus, entendus ou vus de vos yeux. Ce témoignage, c'est la grande idée de l'évangile de Jean qui mène, ce témoignage, il mène à la foi. La foi, si le témoignage est accepté, la foi, c'est de faire confiance à ce qui vous est annoncé, de faire confiance à l'existence d'un Dieu qui vous aime et qui s'est manifesté aux hommes en venant s'incarner en la personne de Jésus-Christ. Témoignage, foi qui débouche sur la vie abondante. Et ce qui est merveilleux, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est que si le processus continue, c'est une espèce de réaction en chaîne, comme une réaction nucléaire. Il y a une réaction en chaîne qui est amorcée et le témoignage qui a débouché sur la foi, qui a débouché sur la vie débouche à son tour sur le témoignage, qui débouche de nouveau sur la foi et sur la vie. Et le circuit est amorcé et il s'est poursuivi jusqu'à nous. Parce que des gens ont mis leur foi en Christ, ça a transformé leur vie, ça a parlé à d'autres personnes qui, à leur tour, ont témoigné, ont mené à la foi certaines autres personnes, et la vie continue. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous devons être vraiment reconnaissants à Dieu, d'avoir mis dans la parole de Dieu, cette semence, la puissance de se reproduire. Une autre image, c'est de dire qu'on est un peu comme des dominos qui tombent. Vous avez peut-être vu, peut-être pas réellement, ou alors réellement c'est avec quelques dizaines de dominos, mais vous avez ces équipes qui font des compétitions, surtout dans les pays asiatiques, où on voit des milliers de dominos qui sont mis en place, et il y en a un qui tombe, et aussitôt ça se propage. Et on voit là, les dominos bouger, tomber les uns après les autres. Et quand on tombe comme un domino pour Christ, c'est une bonne chute. Amen. L'évangile de Jean ne nous parle pas spécifiquement dans ce chapitre de la réaction des autorités religieuses au témoignage de Jean-Baptiste, mais on sent la réponse est palpable. Il y a beaucoup d'incrédulité, de colère contre Christ et son témoignage. Par contre, on voit que ceux qui sont ouverts, ceux qui n'ont pas d'a priori, ceux qu'on pourrait appeler des gens qui sont intellectuellement honnêtes, qui recherchent la vérité, qui sont prêts à l'accepter lorsqu'elle est présentée à eux, ceux-là, ils la reçoivent et ceux-là tombent comme des dominos pour Jésus-Christ. Et on voit donc que le témoignage de Jean, alors encore une fois, dans l'évangile de Jean, il y a Jean qui a écrit l'évangile, qu'on appelle des fois Jean l'évangéliste, et il parle de Jean-Baptiste, dont on a parlé la semaine dernière, qui était d'une certaine façon le dernier prophète qui se rattachait à l'Ancien Testament et qui inaugurait le Nouveau Testament. C'était un proche parent de Jésus-Christ lui-même, et il a donné des premiers disciples à Christ, et puis on va voir qu'en fait, après, c'est le témoignage personnel qui va permettre un contact personnel avec Jésus-Christ. Et ça va donner une foi vibrante, active, fructueuse. Et ça, c'est vrai aujourd'hui encore pour nous tous. Les versets 35 à 39, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Là, il s'agit de Jean-Baptiste. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Un peu plus tôt, il avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ça, c'est au verset 29 du chapitre 1, donc c'est quelques lignes avant. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». C'est l'ouverture de l'évangile de Jean. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Il atteste, il témoigne. On sait que les deux disciples, il parle des deux disciples. On sait que verset 40, André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible est le meilleur commentaire sur la Bible elle-même. S'il n'y avait pas ce verset 40, je suis sûr qu'il y aurait des tas de théories pour savoir qui était l'identité de ce deuxième personnage mystérieux. Mais c'est clair, c'est André, et on pense que l'autre, qui ne n'aime pas se nommer lui-même, c'est Jean, l'évangéliste lui-même. Jean-Baptiste, en fait, il avait des disciples. Qu'est-ce que c'était qu'un disciple ? Le mot « disciple » en grec vient du mot qui nous donne le mot « mathématique ». Ah, j'ai déjà perdu quelques personnes qui n'aiment pas les mathématiques. En fait, le mot « mathéo », « mathématique », ça veut dire simplement en grec « apprendre ». Et la discipline où il faut faire le plus d'efforts pour apprendre, c'est sans doute les mathématiques. C'est la discipline qui règne, quelque part. Et donc, un disciple, c'est quelqu'un qui accepte une doctrine, qui apprend cette doctrine, qui accepte l'enseignement, qui accepte l'instruction qu'on lui donne et qui en fait sa règle de vie. On a souligné en étudiant Marc les jeudis soirs qu'il y a une différence essentielle entre étudiant, le mot étudiant et le mot disciple. Si vous voulez être étudiant, vous allez à la fac de lettres à côté. Si vous voulez être disciple, vous descendez au 10 avenue Aimé Martin et vous suivez Christ. Un étudiant se focalise sur la matière qui est enseignée, sur les théories qu'on lui présente, sur les applications possibles. Mais l'étudiant, il pense à une matière. On fait des sondages toujours à la fac de lettres et on demande aux jeunes personnes qui passent, vous êtes étudiant en quoi? Et généralement, ils ne nous disent pas, je suis disciple de Freud, ils nous disent, non, je suis étudiant en psychologie. Le disciple, lui, la différence, c'est qu'il se focalise sur une personne. Là, il y avait une focalisation sur l'enseignant. C'est là que, peut-être à une certaine époque, il y avait des disciples de Freud. Mais là, c'est des disciples de Jésus-Christ. Et donc, le disciple, c'est quelqu'un qui apprend en mettant en pratique. On peut apprendre en tant qu'étudiant des disciplines sans les mettre nécessairement en pratique dans notre vie. Si l'orientation scolaire est bien faite, ce que vous apprenez pendant des années va vous servir au travail, mais il faut malheureusement reconnaître que bien des fois, on passe des années à étudier un sujet qu'on n'utilisera jamais le restant de sa vie. Et là, on peut aller à Pôle emploi et être reformé pour des activités plus judicieuses, avec une application pratique plus essentielle. Et verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Il y a une expression en français, on parle d'acolyte, c'est le même mot. Un acolyte, c'est utilisé plutôt de façon péjorative pour dire qu'il y avait un mauvais garçon et deux de ses acolytes qui ont braqué la station-service. Mais ça nous rappelle encore une fois l'importance de qui on suit. Quelles sont les personnes qui vous inspirent, les personnes que vous fréquentez, les personnes à qui vous donnez la parole dans votre vie, en quelque sorte. On peut suivre des personnes, des idoles, des personnalités populaires qui n'auront peut-être pas une bonne influence sur le reste de votre vie. On peut même à l'école suivre des gosses qui sont populaires parce qu'ils ont des qualités qui leur permettent de briller dans le groupe. Mais peut-être pas des bonnes qualités. Peut-être parce qu'ils sont costauds, ils mettent des raclées à tout le monde et on veut les suivre pour être du côté de ceux qui va protéger. Non, il est très important de savoir qui vous suivez. Et ma question pour vous, est-ce que vous suivez vraiment Jésus? J'espère si vous êtes ici, c'est que vous avez ce désir. Mais pensez-y, lorsque vous engagez des relations, lorsque vous cultivez des relations de sympathie avec certaines personnes, est-ce que ces personnes vont avoir une bonne influence? Vous pourriez même dire, est-ce que ces personnes vont me rapprocher de Dieu ou m'éloigner de Dieu? Verset 37, ils suivirent Jésus, et verset 38, on va avoir maintenant le témoignage d'André. Juste une parenthèse. Jean-Baptiste, prenait la parole en public pour parler de Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui l'évangélisme de masse. Ou si vous allez dans la rue, que vous prenez la parole d'une façon ou d'une autre, en parlant de Jésus-Christ, c'est un peu anonyme, mais ça a sa place. Dans notre monde du 20e, 21e siècle, on a encore des grands évangélistes qui peuvent remplir des stades et annoncer de façon persuasive l'évangile. Il y avait bien sûr Billy Graham, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait des campagnes en France. On a eu dans les années 86, puis en 90. Puis on a eu Luis Palao, qui est d'origine argentine, un prédicateur évangéliste public, qui est venu faire des évangélisations en France, même à Nice. Mais ça, ça touche pas mal de monde. Et en fait, je suis toujours surpris de voir qu'il y a certains chrétiens que je connais qui sont venus à Christ à travers l'action d'un Billy Graham. Aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Greg Laurie, pour ceux qui connaissent la culture américaine en ce moment, qui fait ce genre de prédication qui est lancé à des millions de personnes et qui peut porter du fruit. Et ça, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont un appel spécial sur leur vie. Mais on va voir que le témoignage, c'est pas limité à ces Jean-Baptiste ou ces Billy Graham. On a d'abord le témoignage de quelqu'un comme André. Jésus se retourne au verset 38, il voit que deux disciples ont quitté Jean-Baptiste. Ça devait être un peu dur parce que Jean-Baptiste avait établi des disciples qui le suivaient, qui suivaient son enseignement. Il enseignait l'Ancien Testament, il parlait d'une vie centrée sur la repentance et qui se consacrait, qui avait se focalisé sur Dieu. Et il avait des gens qui le suivaient, qui aimaient bien ce qu'il disait. Et puis là, il y a des gens qui le quittent pour aller suivre un autre gars. Et heureusement, Jean n'était pas égoïste de sa popularité. Il disait dans Jean 3:30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce qui compte, c'est pas que j'ai des gens qui me suivent, mais c'est que les gens suivent Jésus-Christ. Et c'est vrai que même en tant qu'église, on aime bien qu'une église soit grande. On est des fois un peu amer si des gens quittent notre église pour aller dans une autre église. Mais ce qui compte, c'est qu'ils trouvent une église où ils peuvent s'épanouir et grandir dans leur foi en Christ. Et si vous êtes... Alors, il y a certaines églises qu'on ne recommanderait pas parce qu'elles enseignent des doctrines avec lesquelles on a des problèmes. Mais si quelqu'un vous invite et que vous trouvez une église qui vous convient, vous sentez que l'adéquation entre vos intérêts, l'âge, le groupe, le style, peut-être que ça fera mal si on a établi une relation, mais ce qui compte, c'est que vous soyez en relation avec Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste avait aucun problème avec ça. Et Jésus les voit qui le suivent. Et il est dit, verset 38, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Notez qu'ils ne disent pas, qui cherchez-vous? Probablement que Jésus, connaissant l'homme, la nature humaine, il pense qu'il recherche une chose pour les satisfaire. La plupart des gens qui nous entourent, et nous-mêmes à un moment, nous avons pensé qu'il nous fallait quelque chose pour être heureux. Pas quelqu'un, mais quelque chose. Une bonne formation universitaire, un bon job, un job passionnant, un travail où on voyage. C'est fou le nombre de jeunes gens qui veulent des travails où ils voyagent, et dès qu'ils ont une famille... Ils préfèrent un job où ils n'ont pas à voyager tout le temps. Ça peut être l'argent, la célébrité. Que cherchez-vous? Il y avait aussi sans doute... ils voulaient s'assurer de leur motivation. Et ils lui répondent « Rabbi », ce qui signifie, en fait, on pense à rabbin. C'est vrai que c'est le même mot, rabbi, rabbin, rabbi Jacob. Mais ça veut dire simplement « mon grand ». Rab, c'est beaucoup, c'est grand. Et donc, c'est mon grand ou maître. Et là, souvent, le terme est, voilà, ils nous disent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Et on peut penser que cette question, c'est parce qu'il voulait parler davantage avec Jésus, il voulait faire plus ample connaissance, mais il sentait qu'il pouvait pas faire ça dans la rue ou sur les chemins de Galilée. Il voulait passer du temps avec Jésus. Et ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez ce désir de passer du temps avec Jésus? Il n'y a même pas besoin d'une tasse de café. Souvent, on le fait le matin, on prend une tasse de café, on ouvre la Bible et on prie. On peut passer du temps avec Jésus. Et Jésus, il adore ça. Le mot « adore » est inapproprié, mais il apprécie vraiment, vraiment que vous vouliez passer du temps avec lui. Et si vous le cherchez, il ne se dérobe pas. Dans Jérémie 29, 11 et suivant, il dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alors bien sûr, bien souvent, on est pris par l'horloge, les emplois du temps, les transports, on n'a pas le temps. Mais si vous faites l'effort, vous pouvez mettre votre réveil un quart d'heure plus tôt, ou même 10 minutes plus tôt, ou beaucoup plus tôt encore, si vous voulez passer beaucoup de temps. Mais prenez l'habitude de passer même quelques minutes avec Jésus, de lui remettre votre journée, de lui demander de vous guider. Et ses disciples, ils voulaient faire ça, ils voulaient connaître Jésus davantage, ils voulaient recevoir des instructions sans doute. Venez, leur dit-il, et il nous dit, venez me voir quand vous voulez. Eux, ils y sont allés, ils virent où il habitait, et ils restèrent avec lui tout ce jour-là. Il est dit que c'était la 10e heure dans le texte grec. Selon le calendrier romain, ça aurait été 10 heures du matin. Selon le calendrier juif, ça aurait été 4 heures de l'après-midi. Peu importe la date, l'heure exacte. Mais ils ont passé des heures avec Jésus-Christ. Et donc, c'est une façon de rencontrer Jésus, c'est de passer du temps avec lui. Et là aussi, on rencontre des personnes qui ont reçu un petit évangile des témoins de, pas des témoins, des, comment ils s'appellent, les Gédéons, merci. Et ils ont reçu ce petit livre bleu, ou blanc, ou différentes couleurs suivant les pays. Et ils ont rencontré Jésus en passant du temps avec Jésus dans sa parole. C'est une façon de le rencontrer et de devenir un disciple. On voit plus loin que André, il avait un frère qui s'appelait Simon, qu'on appelle ici, verset 40, Simon-Pierre, parce qu'il allait devenir Pierre. Jésus allait le renommer. Et André, accompagné de Jean, voit Simon, le futur Pierre, et lui disent « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Messie, c'était celui qui est oint. C'était la personne que les Juifs de l'Ancien Testament attendaient comme étant le Christ qui viendrait, comme étant le Fils de Dieu qui viendrait bénir Israël. Et en grec, ce mot de Messie se traduit par Christos ou Christ. Encore une fois, la simplicité du message. Nous avons trouvé le Messie. Pas besoin d'avoir fait de longues études. Vous dites peut-être, moi je suis chrétien que depuis 6 mois, le témoignage auprès des autres, c'est pas pour moi. Malheureusement, vous verrez que c'est souvent quand on est jeune croyant qu'on a le plus de zèle à partager notre foi, parce qu'on voit combien elle fait une différence dans notre vie, et on peut pas s'empêcher de dire ce qui se passe dans notre vie. Puis après on apprend un peu plus la Bible, peut-être un peu de grec, un peu de choses, et là on se dit « Oh, j'en sais pas assez, je peux pas expliquer de façon systématique ma théologie, donc je laisse tomber. » Mais simplement, nous avons trouvé le Messie. Et puis, il le conduisit, verset 42, vers Jésus. Et c'est là que Jésus le voit, et quelque part dans sa toute puissance du Fils de Dieu qu'il était, et plutôt par l'inspiration du Saint-Esprit, parce que tous les choses spirituelles extraordinaires que Jésus a faites sur terre, elles sont à notre portée par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Et il voit cet homme qui était Simon. On nous dit que Simon, c'était quelque chose qui voulait dire soit de l'eau, soit des sables mouvants. C'était quelque chose de pas solide du tout. Et il lui dit, tu vas être Pétros, tu vas être ce rocher, tu vas devenir stable. Et il le voyait dans sa connaissance des hommes, inspiré par l'Esprit Saint. Et là aussi, c'est merveilleux de pouvoir parler à quelqu'un qui vient de découvrir Jésus et de croire que cette personne peut être utilisée puissamment par Dieu. On a tendance à être négatif. C'est même, je dirais, n'en déplaise aux Gilets jaunes, un sport national. Tout va mal. Tout part à volo, tout part en catastrophe. Mais de faire confiance à Dieu pour transformer une personne en une personne qui va le servir et être utile à son royaume. On a un pasteur qui nous a envoyé à Nice, en France, qui avait ce don de prendre des jeunes hommes et de leur faire confiance, de voir avec les yeux de Dieu que ces gens pouvaient être utilisés. Et il nous a envoyé ici, mais il a envoyé plus de 70 personnes qui ont installé, qui ont démarré des églises aux États-Unis et dans le monde entier. Mais il avait cette foi en Dieu, que Dieu allait lui montrer les personnes à qui il pouvait faire confiance, à qui il pouvait, qu'il pouvait encourager. Et vous aussi, dans votre entourage, vous avez peut-être des jeunes, des personnes qui ne connaissent pas bien la parole, mais encouragez-les. On a des jeunes enfants parmi nous, et depuis qu'ils sont tout petits, on croit que Dieu va les utiliser. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que maintenant, 10, 15 ans plus tard, c'est eux qui vont vous servir le café, c'est eux qui vont commencer la louange, c'est eux qui vont... Parce qu'on leur fait confiance et qu'on croit que Dieu veut les utiliser. Et Dieu veut utiliser tous les hommes, tous les gens. Donc il y a ce témoignage, on va accélérer un peu le rythme. Il l'emmène voir Jésus. Jésus le voit et dit, tu vas être quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Et ça a pris du temps. C'est seulement après le début du livre des Actes qu'on voit que Pierre est devenu quelqu'un sur qui on peut compter. Jésus, le lendemain, verset 43, il se rend en Galilée. Il rencontre Philippe, dont on n'a pas encore entendu parler, et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Là, c'est un peu un témoignage direct de Jésus. Et Jésus peut vous interpeller. On parle beaucoup dans le monde musulman, de personnes qui ont des rêves, de personnes qui voient un homme vêtu de blanc, peut-être, qui leur dit des paroles, et ils retrouvent ces paroles dans l'Évangile. Et là, ils sont bouleversés. On a quelqu'un qui était là il n'y a pas longtemps dans une étude biblique. Je sais que ça lui est arrivé, il ne me l'a pas encore dit personnellement, mais quelqu'un qui le connaît mieux m'a dit qu'il avait eu cette vision. C'est Jésus qui frappe à la porte de votre cœur. Et ça, c'est merveilleux parce que il peut faire ça partout où il veut. Même dans les pays où l'Évangile et les chrétiens sont persécutés, il peut frapper à la porte de votre cœur. Alors c'est vrai qu'après, c'est merveilleux s'il y a des missionnaires, s'il y a des programmes de télévision, sur Internet, où les gens peuvent grandir dans leur foi. Mais Dieu peut le faire directement. Le mot André, androïde, andros, ça veut dire viril, c'est l'homme. Donc C'est pas une histoire de bonne femme, l'évangile. C'est très viril que de partager votre foi avec d'autres personnes. Je dis ça pour les gars qui penseraient que c'est bon pour les vieilles femmes, les grenouilles de bénitier. Non, c'est, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui est bien dans sa foi et dans ses baskets et qui la partage autour de lui. Je vous encourage, si vous travaillez, si vous avez des collègues, n'ayez pas honte. De quoi vous auriez honte? Du Fils de l'homme qui a créé l'univers. Et puis, Philippe, André, juste une petite parenthèse avant de parler de Philippe, il était toujours en train d'amener du monde à Jésus. C'est lui qui avait trouvé le petit qui avait quelques poissons et quelques pains et qui l'avait amené à Jésus pour que Jésus multiplie les pains, justement. Et il témoigne à son propre frère. Et c'est vrai que votre témoignage, il a un potentiel formidable dans votre famille. Parce que les gens vous connaissent bien, et s'il y a un changement qui vient de votre rencontre avec Jésus-Christ, ils vont être saisis. Ils vont le remarquer. Alors c'est vrai qu'en même temps, parce qu'ils vous connaissent, ils vont beaucoup douter de vos changements. Oh, t'es tombé dans quoi? Qui sait, tu es tombé dans une secte? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, arrête ton char, on te connaît. Mais persévérez, priez pour ses frères, ses sœurs, ses parents. Dans les campagnes d'évangélisation de Billy Graham, il y a souvent ce qu'on appelle l'opération André, qui consiste à prendre une liste de 7 personnes pour lesquelles on s'engage à prier pendant 6 mois, 1 an avant la campagne. Et c'est remarquable de voir combien ça porte du fruit. Philippe va voir un dénommé Nathanaël et lui dit « On a trouvé quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est celui dont Moïse parlait, dont il parlait dans la loi, dont les prophètes ont parlé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ce Nathanaël, on pense que dans les autres évangiles, c'est la personne qui est appelée Bartholomée, parce qu'il n'y a pas de mention de Nathanaël dans les évangiles de Luc, Marc et Matthieu. Et par contre, on parle de lui dans l'évangile de Jean. Donc, Nathan, c'est peut-être Bartoche, Bartholomée, peu importe. Il était quelqu'un qui s'intéressait à la parole. Jésus va lui dire plus loin que je t'ai vu sous le figuier. On allait sous le figuier à l'ombre en Israël, souvent pour méditer, pour penser à Dieu, pour prier. Et il connaissait la parole d'Athanaël. Il savait que Jésus devait naître dans Michée 5, 2. Il devait naître à Bethléem. Et là, on donne l'impression qu'il est de Nazareth. Donc, il a ces paroles un peu de dépit. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Nazareth n'avait pas une bonne réputation à l'époque. C'est un peu comme on dirait aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir des moulins? Ou de l'Ariane? Encore pire. Bien sûr que oui. On a été au bénéfice de ces bonnes choses qui sont sorties de ces endroits. Et donc il lui dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Le Messie serait né à Nazareth, c'est pas possible, il n'y a rien de bon là-bas. Donc il avait un certain sens de l'humour un peu négatif, un peu caustique. Et remarquez que Philippe, il se démonte pas. Il essaye pas de justifier le fait que oui, il y a eu un appel de l'empereur à faire un census et qu'il faut retourner dans la ville, etc. Non. Il dit, hey, viens et vois. Et ça, c'est une réponse que vous pouvez faire aux gens à qui vous parlez de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous leur dites, viens et vois. Et peut-être vous pouvez les inviter à l'église, à des études bibliques, à aller voir, rencontrer d'autres chrétiens. Et ils voient que la foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'ancré dans la réalité. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a un sens profond, qui donne une interprétation du, qui nous donne une méga story, une histoire pour le monde qui nous entoure. Les gens aujourd'hui ne savent pas d'où ils viennent, où ils vont, et donc ils se disent la première occasion de satisfaction, ils se lancent à fond perdu dedans. Alors que nous, nous avons, par la grâce de Dieu, nous savons d'où nous venons, qui nous a créés, qu'est-ce qui va se passer, où nous allons. Nous pouvons partager cela. Viens et vois. Et Jésus voit Nathanaël, justement, et lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. C'est l'idée que il n'était pas comme Jacob. Jacob, vous vous souvenez, le patriarche, il avait utilisé des ruses pour voler à son frère Ésaü le droit d'aînesse, pour recevoir la bénédiction de son père, au point qu'il était en fuite devant son frère et qu'il s'était retrouvé à dormir dans un endroit. Et là, il avait eu un songe. Il avait vu qu'il y avait une échelle ou un escalier qui montait de la terre aux cieux, et dessus, il y avait des anges qui montaient et descendaient. Et ça l'avait, il s'était réveillé après ça, il avait été rassuré. En fait, Dieu lui disait que dans n'importe quelle situation, on peut avoir accès à Dieu. Mais pas n'importe comment. Lorsque Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier, là, d'un seul coup, il tremble un peu en son fort intérieur. Il s'est dit, mais comment tu as pu me voir alors que moi, je t'ai pas vu? Et là, il a une révélation, il lui dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il croit instantanément. Et Jésus plaisante avec lui, il dit, « Ah, parce que je t'ai vu sous le figuier, maintenant tu crois. Mais tu vas voir des choses encore bien plus grandes. » Et c'est vrai que pendant les 3 années où ils vont suivre Jésus, ils vont voir des choses fantastiques se passer. Et ça n'a pas fini, ce n'est pas fini. Il ajoute, verset 51, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Là, il explique que la vision de la Genèse 28 que Jacob avait eue lorsqu'il était poursuivi par son frère Ésaü, qu'il craignait pour sa vie, cette échelle, c'était en fait Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Jésus-Christ est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Les religions, c'est des efforts de l'homme pour aller vers Dieu. Le fini qui essaye d'aller vers l'infini. Et ça ne marche pas. Ce qui est merveilleux avec la foi chrétienne, c'est que c'est l'infini, Dieu lui-même, qui vient vers le fini. Et ça marche, parce que l'infini est tout puissant. Il peut communiquer avec le fini que nous sommes. Et l'échelle de Jacob, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y avait, vous souvenez peut-être de Job, ce vieux patriarche, probablement l'histoire la plus ancienne de la Bible, où il était maltraité, il pensait que Dieu le maltraitait. Et il se disait, c'est dommage, il faudrait qu'il y ait un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et moi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre la main sur l'épaule de Dieu et sur mon épaule. Et en fait, il parlait à l'avance de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va nous révéler dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Jésus s'est incarné, il était de toute éternité la parole qui était Dieu, qui était avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, mais il s'est incarné pour que nous ayons maintenant un intermédiaire avec qui nous pouvons parler. Et c'est intéressant parce que il y a cette échelle, verset 51, et il y a les anges de Dieu, on pourrait penser que ce sont les anges qui commencent par descendre du ciel et puis qui remontent. Mais si on est attentif, on voit que les anges de Dieu, ils montent et ils descendent. Alors, il y a du trafic sur cette échelle. Il y a quelqu'un comme Marc Chagall qui a dépeint cette échelle et beaucoup d'autres l'ont fait. Mais c'est comme pour nous dire qu'en fait, Dieu a ses anges ici-bas qui sont là pour nous aider, pour nous protéger, qui peuvent monter et redescendre. Le mot « ange », ça veut simplement dire « messager ». Alors c'est vrai que souvent ces messagers ont des pouvoirs surnaturels, mais ce qui compte, c'est que ce soit pour monter ou pour descendre, tout passe par Jésus-Christ, par l'échelle de Jacob. C'est intéressant de voir qu'au cours de cette présentation, donc on voit les premiers disciples de Jésus-Christ, comment il les choisit, comment il les agrège. Et ça, les paroles de ces premiers disciples, ça décrit en fait un espèce de crescendo. Si vous faites de la musique, c'est quand le son augmente, très faible, pour aller à un son presque assourdissant. Verset 38, c'est « mon grand, rabbi, mon grand, maître ». Ils sont prêts à devenir des disciples. Verset 41, nous avons trouvé le Messie, celui qui est oint par Dieu, celui que les Juifs de l'Ancienne Alliance attendaient, il est là. Verset 45, il est celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est le Messie des Écritures que nous lisons dans les synagogues, c'est lui. Verset 49, c'est non seulement mon grand, le rabbi, mais tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu, tu es le maître de l'univers, tu es le maître du monde, tu es le roi d'Israël. Et puis finalement, le plus grand témoignage, c'est celui que donne Jésus-Christ en s'appelant lui-même le Fils de l'homme. Et ça, c'est pas opposé au Fils de Dieu, parce qu'il était Fils de Dieu, mais il était le Fils de l'homme. C'était un titre qui vient du prophète Daniel dans Daniel 7, 13. Et le Fils de l'homme, c'est l'homme véritable, c'est l'homme idéal qui doit apparaître dans la gloire divine et il allait recevoir un royaume universel et éternel. Le ciel est ouvert, l'accès est libre. C'est vraiment la promesse que nous, si nous recherchons sincèrement la vérité, nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Vous pouvez venir et vous verrez. Viens et vois. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette merveilleuse image de l'échelle de Jacob, qui n'est en fait que Jésus-Christ lui-même. Merci Seigneur, parce que tu veux te révéler à chacun de nous, Seigneur. Tu veux que nous tous, nous parvenions à la connaissance de la vérité, que nous ayons la vie éternelle, Seigneur. Qui que nous soyons, hommes, femmes, croyants, incroyants, d'une religion autre que celle de la foi chrétienne, peu importe, Seigneur, tu es mort pour tous les hommes et tu veux que tous soient sauvés, que nul ne périsse, mais que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pendant que nous prions, s'il y en a parmi nous qui n'ont jamais fait cette démarche de s'ouvrir à Jésus-Christ pour devenir son disciple, pour renoncer à nos propres mauvaises voies, pendant que nous sommes tous dans le recueillement, je vous demanderai de lever la main pour signifier que vous le désirez, pour que nous puissions prier avec vous. C'est la plus grande décision que vous puissiez prendre de toute votre vie. N'ayez pas honte, ne laissez pas s'il y en a parmi nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces personnes que tu touches. Je te les remets. Tu connais leur motivation, Seigneur, mais nous voulons croire que c'est vraiment la vérité que tu es qu'ils recherchent, Seigneur, et nous te bénissons pour leur décision de te chercher, Seigneur, de devenir tes disciples, Seigneur.
Sois béni, Seigneur, parce que tu prends soin de ceux qui s'avancent vers toi et ils peuvent passer du temps avec toi, Seigneur, et tu peux les faire grandir dans la foi. Te le remettons. Sois béni, Seigneur, et nous te remettons notre semaine. Aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité, à t'honorer de nos vies. Sois glorifié, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.